Nous avons, dans les deux séances précédentes, évoqué deux questions fondamentales concernant ce genre artistique. Un, nous avons vu qu'est-ce que c'était qu'un portrait, hein. On a essayé de définir ce que c'était qu'un portrait. On a d'ailleurs vu que tout visage, toute représentation humaine n'était pas forcément un portrait, et que quelquefois il y avait des portraits là où on ne les cherchait pas forcément. Et puis la dernière fois, nous avons répondu à la question « à quoi sert un portrait ?» On a cherché à travailler sur les fonctions du portrait. Hein, voilà les deux séances que nous avons déjà abordées. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à quelque chose d'autre. Et pour amorcer cette nouvelle séance, je vous propose de regarder quelques œuvres, après avoir pris en compte nos petites règles habituelles. On va donc regarder quelques œuvres, quatre diapositives, que je vous montre, et pour lesquelles j'aimerais que vous me disiez ce qu'elles ont en commun. Je vous montre ces quatre pièces, ces quatre peintures en l'occurrence. Elles ont toutes les quatre un élément en commun. Est-ce que vous avez une idée duquel ? Pas du tout. Je vous les remontre ?
Oui.
Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je vous les remontre encore. Dernière fois. Hein. Mais c'est le début, il faut se mettre en jambes. Hein. Ces quatre peintures ont un élément en commun. Lequel ? Qu'est-ce qui, finalement, rassemblerait ces quatre œuvres. Ces quatre œuvres.
C'est l'expression de sentiment.
Expression de sentiment. Oui, là, je ne sais pas.
Oh non.
Donc, ça n'est pas d'abord ça. Alors, vous avez raison que de dire vraiment qu'au moins dans deux des œuvres que je vous ai montrées, le sentiment apparaissait sur les visages. Hein. Ça, c'est vrai. En même temps, là, bon. Et puis, dans le tableau représentant deux figures, oui, il y a un sentiment, mais qui n'est peut-être pas hyper souligné. Qu'est-ce qui peut rassembler ? Quel peut être le point commun, finalement, hein ? Pardon ? Ben, un cas où il n'y a pas de paysage.
C'est pas l'époque ?
Non, non. C'est pas l'époque non plus.
Non.
C'est pas la technique.
Non.
Surtout que il s'agit bien toujours de partir sur la question du portrait. On travaille sur le portrait. Donc, on a là des œuvres qui ont un point commun. Lequel ? Pardon ?
C'est dans l'œuvre, pardon, dans la fonction qui peut être.
C'est dans l'œuvre. Mais par là, c'est quelque part un peu dans la fonction aussi. Mais c'est vraiment dans l'œuvre. C'est en les regardant qu'on peut voir, qu'on peut deviner. Parce que j'ai des choix d'œuvres qui ne sont pas forcément simples, évidemment. Mais je n'allais pas vous montrer un truc trop simple non plus. Hein. Voilà. Allez, une petite dernière fois. Pardon ? Ecco. Ce sont toutes des œuvres qui contiennent des autoportraits. Mais lesquelles ? Lesquelles, me direz-vous ? Alors, recommençons. Ça. Courbet. Courbet. On a effectivement là un autoportrait de Gustave Courbet. Okay. avec un sentiment assez fort, effectivement. Hein. Et là, c'est quoi ça?
C'est un couple.
Rubens.
Rubens, absolument. C'est Rubens avec sa première épouse, Isabelle Brandt. Donc on a là un autoportrait de Rubens avec son épouse, sa première épouse.
La Tour.
Maurice Quentin de La Tour, à ne pas confondre avec Georges de La Tour. Maurice Quentin de La Tour, vous avez là un autoportrait au pastel de Maurice Quentin de La Tour. Pardon. Alors à droite, qu'est-ce qui se passe à droite? Pardon. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, l'œuvre que vous voyez ici est une œuvre qui contient un autoportrait, comme vous le dites, il est à droite. Pourquoi est-ce que le peintre qui s'est autoportraituré, vous l'identifiez comme étant à droite là, hein, vous l'identifiez là. Pourquoi là et pourquoi pas là? Ou bien là, tiens. Voilà. Il nous regarde. Hein. Et effectivement, le fait qu'il y a un personnage qui regarde le spectateur est une sorte de, comment dire, de tic que souvent les peintres vont mettre dans des scènes telles que celle-là pour intégrer leur image et pour qu'on les reconnaisse. Ils prennent à témoin, si j'ose dire, le spectateur de leur métier. Vous voyez ? De qui est cette œuvre ? Pardon ? Ah, on n'est pas loin. C'est pas lui, mais on n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin non plus. Pardon ? Non, mais on est... Vous tournez autour, si j'ose dire. Mais encore plus célèbre. Enfin, je crois. Eh oui, c'est une œuvre de Botticelli. Et donc, ce que vous avez là à droite, c'est sans doute un autoportrait de Botticelli. Alors, notez quand même que, comment vous dire, on n'est pas toujours à 100% certain que dans toutes les œuvres où il y a un personnage qui regarde, c'est toujours le personnage qui regarde qui est l'autoportrait. D'ailleurs, quelquefois, il y a plusieurs personnages. Alors, dans ces cas-là, on est bien coincé. Bon. Et puis, quelquefois, les peintres, d'ailleurs, on en a un là qui ne regarde pas vraiment. Mais enfin, il tourne la tête quand même par là. Bon, bref. Donc, voilà, ce n'est pas non plus systématique, mais... C'est fréquent, c'est une chose qui se fait volontiers. C'est à peu près sûr pour l'œuvre qui est ici. Quelquefois, d'ailleurs, encore une fois, les peintres aussi ont présenté des figures regardant le spectateur qui ne sont pas forcément leur autoportrait, mais là, l'ensemble de la critique est à peu près unanime. On a à peu près certainement ici, à droite, l'autoportrait de Sandro Botticelli. Bien. Alors, la séance d'aujourd'hui va être justement consacrée à ça, aux autoportraits. C'est-à-dire aux artistes qui se sont représentés eux-mêmes. Et on va donc beaucoup divaguer dans ces autoportraits d'artistes pour essayer de voir comment les artistes se représentent, de quelle manière, comment ils font. Pour nous mettre un peu en condition, j'ai décidé de vous passer un certain nombre d'autoportraits d'un peintre qui est peut-être un des champions du genre. Ce n'est pas le seul, il y en a eu un certain autre. Est-ce que vous connaissez un certain nombre de peintres ou d'artistes large, qui ont été des grands autoportraitistes, qui sont vraiment souvent représentés. Rembrandt. Rembrandt, effectivement, c'est beaucoup présenté. Rembrandt. Vous en avez d'autres ?
Espagnol,
mais lequel ?
Velázquez,
c'est représenté. Il n'y a pas des tonnes d'autoportraits, mais il y en a plusieurs, effectivement. Goya, oui, c'est volontiers représenté, c'est vrai.
Van Gogh.
Van Gogh, oui. Schiele, Egon Schiele, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup représenté.
Et plus récemment,
Munch. C'était volontiers représenté. Picasso, et quelqu'un qui s'est énormément représenté. C'est énorme. Voilà, effectivement, des exemples de gens qui sont présentés. Alors, je vais vous montrer une première œuvre d'un artiste, d'un peintre, qui s'est beaucoup représenté. Et en balayant un certain nombre des autoportraits de cet artiste, on va rentrer dans le sujet et voir finalement comment un peintre, celui dont vous allez voir une œuvre là, a pu finalement volontiers se... j'enlève ça. Vous avez une idée de l'auteur ? Pardon ? Courbet. c'est effectivement un autoportrait de Gustave Courbet. Généralement, on le voit un peu plus âgé, un peu plus ventripotent. Hein. Là, c'est Courbet jeune. Hein. Magnifique tout petit tableau qui appartient au musée de Pontarlier. Je trouve que ça vaut la peine d'aller à Pontarlier, rien pour ça. Pas que de l'absinthe à boire à Pontarlier, il y a également à voir l'autoportrait de Gustave Courbet, un superbe petit tableau. L'un des premiers qu'on connaisse de Courbet, qui représente Courbet. Alors comment vous définiriez cet autoportrait? Comment Courbet se représente là? Pardon?
Il est fin.
Il est fin, on pourrait dire ça d'abord, oui.
Avec son chien.
Avec son chien. Hein. Il est représenté avec son chien, ça c'est très important. Le chien c'est quoi?
La fidélité,
notamment. Hein. Donc le chien n'est pas un animal. On ne représente pas un chien parce qu'on a un truc. On représente un chien d'abord parce qu'on en a un, mais ensuite parce que c'est un animal fort, hein, sur le plan symbolique, le chien. Hein. Ouais.
Il a l'air encore aimable.
Il a l'air encore aimable, oui. Il a une juvénilité un peu enjouée, effectivement, oui. Ce sera peut-être pas le cas tout le temps, je suis d'accord avec vous. Bien. Parfait. Donc voilà. Le petit autoportrait de Gustave Courbet avec son chien noir, hein, qui date de 1840. Oui. Ça. Toujours Courbet, hein, puisque là, je vais vous montrer toute une salve d'autoportraits de Courbet, mais vous allez voir que Courbet, quand il fait des autoportraits, c'est jamais vraiment pareil. Là, qu'est-ce que vous voyez là?
Là, on voit ses yeux.
Oui. La peur, oui. La folie. Voilà. En effet, il essaie de se représenter ici sous les traits d'un fou ou d'un peureux. Ce tableau, d'ailleurs, a un nom. Vous connaissez le nom de ce tableau?
Est-ce que ce serait le Horla?
Alors non, ce n'est pas le Horla, mais je vois à quoi vous faites allusion. Mais non, ce n'est pas le nom du tableau.
Est-ce que ça a été utilisé pour illustrer Maupassant?
C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça, j'avoue qu'il s'appelle le désespéré. On n'est pas loin de ce que vous disiez. Hein. Voilà. Donc le désespéré, c'est le nom de ce tableau. Effectivement, il est très très habité. Hein. Tableau extraordinaire, hein, qui nous montre Courbet qui finalement joue un rôle. Là. Toujours le chien.
Hein. C'est le même.
Oui, alors c'est même un peu plus tardif.
Oui,
hein. Mais c'est effectivement un peu la même chose. Qu'est-ce qui changerait peut-être un peu là?
Un paysage.
L'expression. Hein. Là, vous diriez quoi par rapport au tableau de tout à l'heure? Voilà, hein, il a pris de la hauteur. Hein. Ça n'est pas le jeune jouvenceau, si j'ose dire, de tout à l'heure. Hein. On a là un personnage qui commence à vous regarder d'un petit peu haut. Hein. Il a un peu moins son air aimable, pour prendre l'expression tout à l'heure. Hein. Voilà, il a toujours son chien, qui a vieilli un peu aussi, d'ailleurs. Mais voilà, maintenant Courbet commence quand même à vous toiser. Hein. Bien. Oui, exact, absolument.
Oui, mais il y a un livre.
Absolument, ça c'est très important, effectivement. Et qu'est-ce que la nature a d'intéressant, là, qui accompagne le portrait de Courbet?
Il y a des rochers.
Rochers?
Du Jura.
Voilà, le Jura. Le Doubs, oui, alors... en tout cas. Hein. Voilà, on sent vraiment que Courbet, vous savez, vous connaissez l'attachement de Courbet pour sa province. Hein. C'est vraiment un type de la montagne, du Jura. Hein. Le Doubs, c'est son truc, c'est son affaire. C'est Ornans, sa patrie. Hein. Et là, vraiment, on le voit. On a les rochers d'Ornans hein, qui sont ici présents. Hein. Et là. Oui, là il est accompagné. Alors c'est quoi ça?
C'est une scène galante.
Voilà, oui, mais encore. Toujours autoportrait. Hein.
C'est peut-être son épaule.
Alors, sa compagne, d'un temps. Hein. Vous avez effectivement ici Courbet avec sa conquête du moment. Hein. Voilà. Donc. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire au-delà de ça, de ce double portrait, finalement, que vous avez ici? Pardon, plus sombre, oui. Plus romantique, effectivement. Hein. On a là effectivement une vision très, très romantique. Vous voyez, Courbet n'a pas placé les deux personnages côte à côte comme ça, vous regardant. Hein, il les a placés d'une manière... Mais on l'a vu ça tout à l'heure. Maintenant, on n'est plus surpris. Hein. Il théâtralise cette apparition. Hein. Vous n'avez pas l'homme et la femme qui sont là, un peu plantés. Ils sont de manière romantique, donc les choses d'un peu sombres. Il y a une sorte de ténèbres mystérieuses ici. Hein. On voit aussi qu'ils sont représentés de profil. On devine un paysage dans le fond. Enfin, on ne sait pas si c'est la nuit, le matin, si l'orage va tonner. Enfin, bref. En tout cas, il y a le sentiment des personnages, mais qui est accompagné par celui du paysage. Hein, mais ce lien portrait-paysage, on l'a souvent vu. Sauf que vous voyez que finalement, dans notre nomenclature, on pourrait dire que ça, ce tableau-là, comme peut-être d'ailleurs le désespéré tout à l'heure, c'est des portraits qui n'en sont pas vraiment. Hein. Parce que Courbet n'a jamais appelé ce double portrait mon portrait, celui de ma compagne. Hein. Il a appelé ça les amants à la campagne. Hein. Voilà. Donc, décidément, vous voyez que ce statut du portrait est plus compliqué, plus ambigu, mais ça fait 3 séances qu'on le dit, et ça continue, hein, qu'il n'y paraît. C'est bien Courbet avec une compagne, mais il théâtralise ça et finalement se retire un peu de l'œuvre. Hein. Hein. Ensuite. Toujours lui. Je ne vous montre que du Courbet, pour commencer. Hein. Vous connaîtrez tous les autoportraits de Courbet. Et là, c'est quoi ? Pensif, mélancolique.
Hein. Et réfléchi.
Réfléchi, oui. Et là aussi, vous auriez à le qualifier, ce portrait.
Il a le porte-crayon quand même.
Oui, oui, ah oui, oui, il a quand même un porte-crayon qui vous signale l'artiste. Hein. On n'est pas devant n'importe qui. Hein. Mais là aussi, si vous aviez à lui donner un qualificatif, vous diriez quoi ? Oui, c'est ça, mélancolique. Là aussi, on est vraiment, comme dans le tableau précédent, on est bien. À l'époque romantique, vous savez, on nous dit souvent, et c'est pas faux, hein, que Courbet, c'est le premier grand réaliste. C'est vrai, hein. Un enterrement ordonnant, c'est ça, c'est un tableau, effectivement, tout est réaliste. Mais vous voyez que Courbet est quelqu'un qui, après tout, naît assez tôt, hein, et qui n'est pas un réaliste plombeur, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui, avant d'être réaliste, ou en même temps qu'il l'est, vient également de la génération antérieure, c'est-à-dire celle du romantisme, hein, avec tout ce que ça veut dire. On le voit bien dans un tableau comme celui-là, comme celui d'avant. Hein. On l'appelle, ce tableau, l'homme à la ceinture de cuir. Vous voyez qu'il n'y a pas marqué portrait de Gustave Courbet. Hein. C'est autre chose. Donc, on est dans des portraits qui ont une sorte de statut ambigu, de double statut, d'autoportrait, certes, mais en même temps, d'évocation plus d'une figure mélancolique, je dirais, que d'autre chose. Et là. Là, il est barbu. Ouais. Oui, il est musicien. Pourquoi est-ce que Courbet, comme ça, tout d'un coup, prend un instrument de musique ? Oui, pardon ? Pour jouer un rôle, oui. En l'occurrence, celui d'un musicien. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, il s'autoportrait en musicien ? Quelle est la raison ?
Est-ce que c'est
ma perte
de musique ?
Pas plus que ça. Oh, il a toujours. Courbet est un grand touche-à-tout. Hein. Il a fait de la sculpture, il a fait. Mais donc, il a sûrement bricolé sur des instruments. Mais quel est peut-être, au-delà de ça, du fait qu'il a peut-être un peu pratiqué la musique, quelle est peut-être aussi l'idée plus générale qu'il y a derrière ça ?
Le romantisme.
Oui.
L'art en général.
Voilà, c'est ça. C'est l'idée de l'art en général. C'est-à-dire que l'idée est là de se tailler la posture, la figure de quelqu'un qui n'est pas qu'un peintre qui fait de la peinture, mais d'un artiste avec un grand A. Hein. On n'est pas là devant quelqu'un qui se contente de taquiner la muse picturale, c'est quelqu'un qui est un artiste. Hein. Alors l'art, ce n'est pas que la peinture. L'art, c'est l'art avec un grand A. C'est la peinture, c'est la musique, c'est la littérature, c'est la sculpture, c'est tout. Hein. Ben, il est un artiste, alors il prend un violoncelle. Hein. Je crois que c'est un violoncelle. Moi, je suis pas très musicien.
Vous voyez marqué le violoniste.
Oh ben, violoniste. Non, ben, c'est
faux. Ouais. Non, c'est pas possible.
Ben, je sais pas. C'est le titre du tableau.
C'est pas possible.
Ça, c'est pas un violon, c'est un violoncelle.
C'est la position de l'arche.
On vérifiera. on ira à Stockholm. Et là,
fumeur de pipe.
Il est boudeur.
Un fumeur de pipe, il est un peu boudeur, oui. Mais encore, je ne sais pas s'il est boudeur.
Non,
désabusé.
Et dominateur.
Est-ce qu'il fume du tabac? Ah.
Pardon?
Ça dépend ce qu'il fume.
Il fume, ah oui, j'aurais pas dû mettre la diapo. Hein. Oui. Alors j'aurais dû faire un cache.
Il fait des abusés.
Ou dominateur.
Oui, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait par rapport aux autres? Pardon? Un peu dandy, oui. Et puis encore?
Il pose un peu.
Il pose un peu, oui. Oui, c'est la détente, voilà. Je crois qu'il y a une dimension de relâchement, si vous voulez. Hein. Bon, vous savez, un peintre dans un atelier, c'est pas un comptable devant l'ordinateur. Hein. Un peintre dans un atelier, c'est quelqu'un qui peint, puis qui s'assied, qui fume un peu, qui sirote un vague café, qui mange un bout de pain, qui sort deux minutes, qui revient, qui prend une heure à faire que peindre, et puis qui va revenir, qui va dormir. C'est ça, un peintre. Hein. C'est pas quelqu'un qui est devant son... Enfin, pas tous les peintres. Hein. Il y a une dimension de bohème dans la peinture, si vous voulez. C'est un peu ce que dit ce tableau, qui installe l'idée d'un peintre, qui est un peu une sorte de... qui est un peu gandin, dandy, peut-être, hein, mais qui est aussi quelqu'un qui vit dans cette espèce de monde un peu parallèle où les convenances et les obligations sont un peu mises de côté. Hein. Mais ce tableau s'appelle « L'homme à la pipe ». Donc vous voyez toujours ces autoportraits qui en sont bien, mais où l'artiste se met en scène. Et ça... Sombre, oui, sombre.
À quelle date?
C'est après celui que l'on vient de voir. Je ne peux plus vous dire la date, mais on va la voir apparaître dans deux minutes. Je vous les passe chronologiquement, là. Ténébreux, oui. Oui, il y a une dimension. Et je demande là aussi, si vous trouviez un qualificatif, vous diriez quoi? Oui, il y a une dimension de réflexion, c'est ténébreux. Je crois qu'une fois de plus, il faut utiliser le terme romantique. Hein. On est là quand même. Vous savez quand même que le romantisme, c'est ça. Il y a une sorte d'inquiétude passionnée permanente. C'est ça, le romantisme. Hein. Et on voit dans un tableau comme ça, cette idée-là. Hein. Avec peut-être quand même une chose qu'on n'a pas vue avant, qui serait quoi, peut-être? Il me semble qu'on ne l'a pas trop vue avant. Oui, on pourrait dire ça. Pardon.
La lumière sur le visage.
Oui, alors là, il y a en effet une volonté de contraste. Ça aussi, c'est un effet assez puissamment romantique, même si d'autres à l'ambiance l'ont utilisé. Hein. Mais à mon avis, il y a quand même une grosse différence par rapport à beaucoup des portraits qu'on vient de voir. Alors, il est effectivement signé, Gustave Courbet, effectivement. Les autres étaient plus discrets. Il y avait souvent Gessé, par exemple.
Il n'y a pas d'attribut, il n'y a rien d'autre que
lui.
Oui,
voilà. Il n'y a pas d'attribut, il n'y a rien d'autre que lui. Et même s'il a un regard, comme c'est un peu ténébreux, même s'il y a des effets théorisques, etc., là, on est vraiment dans un portrait, si vous voulez. Hein. Un portrait de chez portrait, si j'ose dire. Hein. Les autres, on avait soit une dame à ses côtés, soit un violon ou violoncelle, soit une pipe pour avoir l'air de... là, ce n'est pas le cas. Là, on a le type qui est là devant vous. Alors, il vous regarde. D'accord, il a les yeux un peu comme ça, il y a du clair-obscur. Mais là, on n'est pas dans quelque chose qui fait un artifice particulier. Il y en a un peu d'artifice. On est quand même devant une peinture. Mais si vous voulez, là, on est dans un portrait plus... entre guillemets, neutre. Certes, il y a du clair-obscur, ça donne une sorte de tension, mais là, c'est vraiment un autoportrait qui en est un, si j'ose dire. Hein. Là, on est devant quelque chose qui est un autoportrait, même s'il y a des effets picturaux soulignés, en quelque sorte. C'est lui. Il était chez le coiffeur.
C'est le même que dans Bonjour Monsieur Courbet.
Pardon. Oui, c'est un peu le même que dans Bonjour Monsieur Courbet, oui.
C'est vrai.
Vous ne croyez pas si bien dire, d'ailleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Il est serein.
Ouais.
Et puis il a la verdure derrière et l'éclairage par devant.
Oui. C'est bien. Ouais. Oui, toujours on voit bien que décidément le paysage peut jouer un rôle chez lui. Hein. Toujours son cher Jura. Hein. Enfin, le massif Jura, je tiens, je ne parle pas du département. Hein. Et puis, autrement, le portrait, qu'est-ce qu'il... par rapport au précédent, vous diriez quoi? Au précédent, dans la KX, c'est un S. Pardon? Alors, il est moins ténébreux que le précédent, oui.
Il est tout seul, mais...
Pardon?
Je dis, il est tout seul, mais il y a le paysage derrière.
Ah oui, le paysage joue un rôle, décidément. Hein. Je crois qu'on pourrait dire, dans la lignée du précédent, mais de manière moins ténébreuse, hein, plus apaisée, qu'on a également un autoportrait qui est un autoportrait, quoi. On n'a pas encore une fois une dame pour l'accompagner, il est de face, il vous regarde. Certes, il y a le paysage, bon, mais enfin, il faut bien faire quelque chose dans le fond quand même. Mais vous n'avez pas un attribut, enfin, on a un autoportrait qui est un autoportrait. On ne cherche pas à faire un violon lisse, un pseudo-fumeur, je ne sais quoi. Hein. On est là, devant, il n'y a même pas de chien, si vous voulez. On est devant un portrait qui, vraiment, est un autoportrait, quoi, au sens que c'est un du terme. Ah là, il y a de la mise en scène, hein. C'est pas le tableau précédent. Vous voyez que décidément, les autoportraits, c'est très, très différent. Hein. Ils changent beaucoup. Là, il y a la nature, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épée, puis il y a quoi d'autre? Il y a du sang. Il y a du sang. Hein. Voilà. Ça, c'est de la mise en scène. Hein. Hein. D'ailleurs, c'est un tableau qui s'appelle... Qui s'appelle? Non, ah oui, ça fait penser au Dormeur du Val. Sauf que le Dormeur du Val, c'est un coup de pistolet ou de fusil. Hein. Alors que là, c'est une épée. Ça s'appelle L'homme blessé. Voilà. Hein. Vous connaissez l'histoire de ce tableau?
Non.
En fait, il y a une histoire assez amusante. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand Courbet a fait ce tableau, c'est pour ça que vous voyez qu'il est daté de deux périodes, 1844-1854, 10 ans. Disons, pour faire un tableau qui n'est pas très grand, on est un peu surpris quand même. Hein. Sous Courbet, vous troussez un tableau de 4 mètres de long en 5 minutes. Hein. Donc franchement, il n'est pas homme à faire un petit tableau comme ça en 10 ans. Bien. Au départ, en 1844, Courbet a fait un tableau qui le représentait lui, couché comme ça au pied d'un arbre, avec sa nouvelle conquête auprès de lui. Couché aussi auprès de lui. Le problème, c'est que la nouvelle conquête a laissé tomber le conquérant, si j'ose dire. Ce qui a beaucoup chagriné Courbet, qui finalement a repeint sa conquête et s'est représenté en homme blessé.
Ça se tient.
Et pour connaître la composition du tableau précédent, mais que les radiographies ont d'ailleurs révélé en dessous de ça, hein, il se trouve qu'on a un dessin correspondant. Voilà le dessin. Hein, ça, c'est le dessin, hein, avec sa dulcinée, n'est-ce pas? Entre-temps, la dulcinée, elle est partie, alors on a fait ça. On a fait ça. Oh là, non, ça ne va pas du tout.
Voilà.
Je suis à l'envers. Voilà.
Ah oui, c'est okay.
Un trait théâtral. Voilà, alors là, vous en parliez tout à l'heure. Bonjour, monsieur Courbet. Hein? Tableau célébrissime hein, qui s'appelle comme ça. Bonjour, monsieur Courbet. Ce tableau présente quoi? Monsieur. Et ce monsieur dont on va retrouver le nom, donc Courbet, il est où, là? À droite. Hein, Courbet, c'est lui. Bien. Courbet, il rencontre ce monsieur-là. Ce monsieur-là, on va retrouver son nom, mais c'était qui? Pardon? Pas Fabre. Non. Le châtelain du coin, non. Enfin, non, je ne définirais pas comme ça. Pardon? On est dans le midi, effectivement. Ce monsieur qu'il rencontre, c'est, au-delà de son nom, c'était qui, à votre avis? Pardon? Un quoi, pardon?
Félibrige.
Ah, non. Non. Un collectionneur. Un collectionneur. Hein. Un collectionneur important pour Courbet, parce qu'il collectionnait beaucoup les œuvres de Courbet. Bien. C'est lui qui a un temps, du moins, pas mal assuré ses revenus. Ce collectionneur s'appelait Bruyas. Hein, et si vous allez au musée de Montpellier, au musée Fabre à Montpellier, hein, pour ça que vous parliez de Fabre tout à l'heure, au musée Fabre Montpellier, vous verrez beaucoup d'œuvres léguées par Bruyas au musée de Montpellier, dont ce tableau qui est au musée de Montpellier. Parce que Bruyas a légué toute sa collection d'œuvres au musée de Montpellier, une collection très importante. Dont ce tableau, donc on voit Bruyas au centre, qui, là aussi, c'est une scène. Hein, vous voyez que Courbet se met en scène à nouveau. Mais là, une scène avec des personnages, on est vraiment dans du cinéma. Hein. Et derrière Bruyas, il y a le serviteur de Bruyas qui l'accompagne. Et il y a même un chien. Donc le fameux « Bonjour, monsieur Courbet », tableau célèbre. Et ça, Il est en train de peindre, sauf qu'on ne voit pas tellement ni la toile, ni les bras, etc. Donc effectivement, c'est un autoportrait où on devine que Courbet est en train de peindre, sauf qu'on le devine vraiment parce qu'on ne voit pas son geste. Ça voudrait dire quoi d'ailleurs, par rapport à ce tableau ? Que c'est une partie de tableau. En fait, c'est un tableau complet. C'est-à-dire, si vous allez à Montpellier, où il se trouve, vous verrez le tableau comme ça. Hein, d'ailleurs, je vous passe la légende. Là, voilà. Hein. Mais quand vous dites que c'est un morceau, vous n'avez pas tort. Pourquoi ?
Alors, une étude.
C'est une étude. C'est une étude pour un tableau. Là, Courbet a fait une étude, mais qu'il se proposait d'intégrer un tableau plus important. Lequel ? L'atelier. Ce que vous avez là, c'est un détail, ou plutôt c'est une étude, pour ça. Ou plus exactement, pour ça. Là, vous voyez, ça va marcher, ça, voilà. Vous voyez ça, hein, qui est donc le détail du tableau définitif, et voilà le grand tableau définitif. Donc ce que vous avez vu, c'est une étude pour ça. D'accord ?
Sainte-Pélagie.
Sainte-Pélagie. Courbet à Sainte-Pélagie. Quid ?
Emprisonné après la colonne Vendôme.
Voilà. Hein. C'est comment la commune, on va détruire la colonne Vendôme. Hein. Courbet avait plus ou moins trempé dans l'affaire, de manière d'ailleurs peut-être plus favorable qu'on imagine. Hein. Longtemps on a dit c'est Courbet qui a flanqué en l'air la colonne Vendôme. Enfin, pas tout seul, hein, mais... et en fait, non. Il semble que son rôle n'ait pas été aussi...
Il voulait la déplacer.
Voilà, son rôle a été un peu moins défavorable que ça. Hein. Il y a eu toute une série d'articles récemment là-dessus, donc voilà. Simplement, il fallait faire un exemple, et même plusieurs. Alors, on dit, Monsieur Courbet, c'est vous. Alors, on l'a donc enfermé à Sainte-Pélagie, et vous avez là le portrait de Courbet à Sainte-Pélagie, que certains d'entre vous ont peut-être vu au musée Ornans de Courbet, quand on est allé là-bas il y a un an ou deux, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un autoportrait de Courbet en prison, en fait. Hein, voilà. Voilà. Donc vous voyez que ce cher Courbet, c'est le moins qu'on puisse dire, il a fait beaucoup d'autoportraits, de portraits de lui-même. Il y a des vrais autoportraits où il se représente, et son but, c'est de se représenter lui-même, sorti du coiffeur ou pas, si j'ose dire, hein, vous vous rappelez, hein. Il y a des portraits où il s'est mis en scène tout seul, avec un violon, une pipe, un chien, etc. Des portraits où il s'est mis en scène avec du monde, soit sa dulcinée, soit pas. Enfin, vous voyez qu'il y a mille manières de faire des autoportraits. Alors, c'est ce que nous allons, pour poursuivre cette séance, regarder à travers les siècles. J'ai organisé le reste de cette séance autour de trois périodes, c'est-à-dire le Moyen-Âge et la Renaissance, les 17 et 18e siècles et le 19e siècle, voire l'orée du 20e, et on va essayer, en parcourant ces trois grandes périodes, de regarder un certain nombre d'autoportraits. Alors d'abord, vous avez deviné les artistes. On est là pour ça. Hein. Et puis, d'autre part, on va essayer de voir quelle est la veine dans laquelle s'engouffrent ces artistes pour faire leurs autoportraits. Alors,
on voit rien ici.
Voilà. Moyen-Âge et Renaissance. Les époux en or fini de Jan van Eyck. Vous savez qu'il y a deux van Eyck, hein, il y en a même trois. Il y a Jan van Eyck, il y a Hubert van Eyck et il y a Barthélemy Dideck. Hein, donc là, c'est Jan van Eyck. Alors, Jan van Eyck, pourquoi est-ce que je vous montre ça là ? Je vous rappelle qu'on parle des autoportraits aujourd'hui.
Oui, mais
des portraits.
Dans le miroir.
Et voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le miroir ? Pardon ? Voilà, il y a l'image du peintre. Effectivement, dans le miroir qui est là-bas au fond, il y a l'image du peintre. Donc, ce tableau qui est à la National Gallery de Londres, hein, je vous montre là le détail à droite, hein, agrandi, de ce miroir, qui est un miroir bombé, hein, comme on en faisait beaucoup à cette période. Vous devinez là le dos de M. et Mme Arnolfini, hein, et là, vous voyez que devant eux, c'est-à-dire à notre place à nous, il y a ces personnages que l'on voit là dans le reflet de l'œuvre, dans le reflet du miroir, notamment un personnage en bleu qui, a priori, est le peintre. C'est-à-dire le peintre se représente dans ce jeu de miroir. D'accord ? Donc là, on a là un autoportrait, mais qui est reflété via le miroir qui est dans le fond, derrière ce portrait dont le sujet, hein, c'est quand même pas le peintre lui-même. Mais enfin, il s'y intègre. Ok, très bien. Ça, c'est qui, ça? C'est de qui?
Le maître de Moulin, c'est d'un bourguignon?
Pas du maître de Moulin, c'est d'un artiste... Oh oui, on pourrait dire qu'il est bourguignon, après tout. Pardon? C'est Van der Weyden. Oui. On peut dire qu'il est bourguignon d'abord, parce qu'un des chefs-d'œuvre de Van der Weyden est à 40 km d'ici, ou 30, ou 20, Beaune, hein, 28, voilà. Et puis d'autre part, parce que, après tout, hein, la Flandre, c'est la Bourgogne à l'époque. Hein. Donc c'est un peintre bourguignon, là. Qui nous représente quoi, là?
Il y a la Vierge et l'Enfant.
Il y a la Vierge, oui. La Vierge et l'Enfant, oui.
Il y a ça.
Et c'est Saint-Luc.
C'est Saint-Luc.
C'est Saint-Luc en principe.
Voilà. C'est-à-dire que dans la légende de la peinture et dans la vie légendaire des saints, on nous dit que Saint-Luc, l'évangéliste, hein, celui qui est accompagné de quoi, Saint-Luc? C'est que chaque évangéliste a prévision. Quels sont les évangélistes et quels sont leurs animaux ou leurs, les figures qui les accompagnent? Premier évangéliste, Saint-Marc. Il a quoi avec lui? Un lion. C'est vu pour Saint-Marc. Deuxième évangéliste, Matthieu. Très bien. Moi, je trouve que c'est le premier, mais chacun a son truc. Matthieu, c'est quoi? Non.
C'est le bœuf?
C'est l'ange. Hein, l'homme ailé, précisément. Très bien. On a vu Saint-Marc, on a vu Saint-Matthieu.
Saint-Jean.
Saint-Jean, c'est quoi?
Un enfant.
L'aigle. Il en reste un. Saint-Luc. Le taureau, voilà. Saint-Luc, c'est donc un évangéliste qui est accompagné du taureau. Hein. Eh bien, on nous dit, dans les légendes attachées aux saints, que Saint-Luc aurait fait, car il était peintre, aurait fait un portrait de la Vierge. Donc ce que vous avez là, c'est Saint-Luc en train de faire le portrait de la Vierge. D'accord? Par parenthèse, mais on s'abstrait deux secondes de l'histoire des autoportraits, ce tableau vous fait penser à quoi d'autre? Vous pensez à rien? Ouais. Quel autre tableau ça vous fait penser? La Vierge du chancelier Rollin. Vous connaissez la Vierge du chancelier de Rollin de Van Eyck, où on voit le chancelier Rollin agenouillé et la Vierge devant un tableau qui avait été fait pour une église d'Autun, mais qui est au Louvre aujourd'hui. Et dans la Vierge du chancelier Rollin, Van Eyck invente cette idée-là. Van der Weyden, qui a été le disciple de Van Eyck, a donc repris ça et a fait ici une scène différente. Il y a toujours la Vierge, mais il n'y a pas le chancelier Rollin, il y a Saint-Luc. Mais il y a toujours la même idée derrière, hein,
c'est ça,
avec
c'est
notamment des personnages qui regardent. Hein. Donc c'est la reprise par Van der Weyden d'un thème imaginé par Van Eyck, son maître. Hein. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que je vous passe, alors que cette scène représente Saint-Luc peignant la Vierge, pourquoi je vous passe ça dans une séance consacrée aux autoportraits? Ben voilà, c'est que c'est assez vraisemblablement le peintre. Alors, c'est le même coup que pour Botticelli tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on pense, il y a de grandes chances de penser, que le peintre s'est représenté lui-même en peintre peignant la Vierge. Hein. Ça, c'est une chose qui est, j'allais dire, bienvenue. Hein. Mais on n'en est pas non plus sûr à 3000%, si j'ose dire. Hein. Mais c'est très vraisemblable. On a assez vraisemblablement un peintre qui se déguise dans son saint patron, Saint-Luc, c'est le patron des peintres. Hein. D'ailleurs, vous savez qu'à Rome, autrefois, jadis, il y avait une académie qui s'appelait l'Académie de Saint-Luc, qui s'appelait l'Académie de Saint-Luc, tout simplement pour ça, et qui regroupait des peintres. Il y en avait une à Paris aussi, hein, une Académie de Saint-Luc aussi, donc, mais qui était moins célèbre que l'Académie royale, mais quand même. Donc Saint-Luc est le patron des peintres. Les portraits peuvent être sculptés. Hein. Et les autoportraits aussi. Alors. Pardon? Absolument. C'est un détail de la porte du baptistère de Provence. De Florence, absolument. Tout à fait. Alors, qui a réalisé cette porte?
Ghiberti.
Hein. Ghiberti, effectivement. Donc c'est une œuvre de Ghiberti et qui est un détail de cette porte. Autrement dit, ce que vous voyez là, c'est qui? C'est Ghiberti. Hein, voilà. Donc vous avez à droite la porte, vous avez à gauche un détail qui présente Ghiberti. Là, l'autoportrait, il a quelle utilité ? Il sert à quoi ? Pardon ? C'est la signature. C'est la signature. C'est en quelque sorte une manière de dire qui a réalisé l'œuvre. Facile.
C'est Fouquet.
Okay. C'est marqué dessus. Alors là, franchement, c'est trop facile. Bien. Sauf que cette œuvre, d'abord, techniquement, c'est fait comment ?
Du bois.
Non. Sur du cuivre. Et c'est quelle technique, ça ? C'est pas de la gravure. C'est pas tout à fait de la peinture. Enfin, c'est un genre de peinture. C'est de l'émail. Ce que vous avez là, c'est un émail. Quelle dimension, à votre avis ? C'est tout petit. Et vous voyez trois agrafes autour. Hein. C'est un truc qui est grand comme ça. Hein. Ça fait à peine 10 cm de haut. Hein. À votre avis, cette œuvre, ce petit émail circulaire représentant Johannes Fouquet, Jean Fouquet, cette œuvre était faite pour quoi ? Sa fonction, c'était quoi ? C'est vrai que ça aurait pu être pour l'offrir, parce que c'est un petit portrait, on pourrait avoir ça chez soi, sur soi, etc. C'est une idée, ça. Mais c'est pas ça. Un peu comme les miniatures qu'on verra plus tard, hein, au 18e, 19e, on avait souvent des miniatures, on avait toute sa famille en miniature. Hein. On mettait ça après les cheminées, notamment. Bien. Donc, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça.
Ça aurait pu être mis sur un livre.
Ça aurait pu être mis sur un livre, sur un plat de reliure, par exemple. Hein. C'est pas ça non plus. Oui, c'est un petit peu l'idée d'ailleurs de la miniature de tout à l'heure. Hein. On envoie ce portrait, tout comme quelquefois on fait faire le portrait d'une fiancée pour savoir qui on va épouser. Hein. Les princes faisaient souvent ça. Quand on les mariait à une princesse qui était à 3000 km, ils aimaient bien savoir à quoi elle ressemblait. Hein. Voilà. Non. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment ?
C'est
une sorte de signature, oui. Et pourquoi ? Comment ?
Un sceau ?
Non. Non plus. Vous donnez votre langue au chat ?
Oui.
C'est qu'en fait, à l'origine, cette petite peinture que vous voyez là, cet autoportrait de Jean Fouquet, ornait un cadre, un peu comme la porte de Ghiberti que vous avez vu avant. Mais je vous passe tous ces autoportraits par ordre chronologique. Et c'est le même cas de figure, finalement. Fouquet avait réalisé à la peinture que je vais vous montrer, un diptyque, dont le cadre était décoré de toute une série de médaillons, dont l'un représentait son portrait. C'était sa signature. Manière de signer son œuvre. Alors, je vais vous montrer l'œuvre, donc voilà le cartel de l'œuvre, mais voilà l'œuvre en question. C'était un diptyque qu'on appelle le diptyque de Melun, parce qu'autrefois il se trouvait dans une église de Melun. Il y avait d'un côté Étienne Chevalier, qui est un assez haut personnage au royaume de France au XVe siècle, et en face il y avait la Vierge. Hein, c'était donc un diptyque, pas un tri, mais un diptyque. Et ce diptyque qui est aujourd'hui séparé entre la Gemäldegalerie de Galerie de Berlin et le Musée royal des beaux-arts d'Anvers était entouré d'un cadre. Et on sait que ce cadre, parce qu'on a des descriptions, hein, était un cadre, mais le cadre était couvert de petits médaillons en émail, circulaires, dont il ne reste plus que l'autoportrait du Louvre que je viens de vous montrer, qui est donc un médaillon circulaire, qui allait sur le cadre. Hein. Bon, là, je l'ai mis en bas à droite, mais... Et puis, on en connaît un autre, que je vous ai mis là, mais qui, hélas, est détruit, il a été détruit à Berlin dans les bombardements de la dernière guerre. Hein. Donc, il n'existe plus. Quant aux autres émaux, ben, on les cherche toujours. Donc, voyez comment un autoportrait peut être une signature. C'était le cas pour Ghiberti, c'est le cas pour Fouquet ici. Ah ! Alors.
Panneau de gauche, il y a un petit personnage qui est un peu caché derrière Saint-Jean-Baptiste.
Donc, on aurait, dans le panneau de gauche, un petit personnage caché qui serait...
Peut-être
le peintre. Le peintre, l'autoportrait.
Il fait jeune, hein.
Ce serait ça.
Peut-être.
Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui n'est pas...
C'est ça. C'est-à-dire, vous avez là une œuvre de qui ?
Un flamand.
Un flamand. Vous avez une idée ?
Non.
Pardon ? Ça fait un peu penser à ça, effectivement. Mais c'est pas ça. Puis ça ne nous dit pas le nom du peintre. Hans Memling. Hein? Hans Memling est en fait, effectivement, le petit personnage que vous avez là est généralement interprété comme étant l'autoportrait de Memling. Là, je vous l'ai agrandi. Hein? Ah, c'est lui qui est là. Le voilà agrandi. C'est donc sans doute l'autoportrait de Memling. Hein. Souvent les peintres, on va rappeler Botticelli tout à l'heure, hein, les peintres du Moyen-Âge et de la Renaissance s'invitent comme ça dans un tableau. Ils ne prennent pas le premier plan comme ça, hein, mais ils se mettent dans un petit coin derrière une colonne, etc. Ils regardent le spectateur ou pas, et c'est une manière de s'intégrer dans l'œuvre. Alors, il y a toujours évidemment une petite suspicion, on n'en est pas toujours certain, hein, mais c'est plus que vraisemblable. En tout cas ici... c'est une hypothèse qui est très largement admise par les spécialistes. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à dire d'ailleurs sur ces questions touchant à la signature des œuvres au Moyen-Âge, avant qu'on regarde ça ? Bon, on réabordera la question tout à l'heure, c'est pas grave. Ça, c'est quoi ? C'est une sculpture. Bon début, ça. Ouais, là. Oui, voilà. C'est un peu comme une cariatide. Hein. Cariatide masculine. Comment est-ce qu'on appelle les cariatides quand elles sont des hommes et pas des femmes ? Atlante. Hein. Donc c'est un atlante. Un atlante. Et qu'est-ce qu'il fait, cet atlante ?
On dirait qu'il tient un burin.
Il tient un burin, un marteau, absolument. Hein.
C'est le sculpteur.
Il tient un marteau et un burin. C'est le sculpteur. Hein. Le sculpteur qui a fait le monument. Mais quel monument ?
Une chaire.
C'est une sorte de chaire. C'est pas tout à fait une chaire, mais c'est pas loin. Hein. Et quelle chaire ? Celle qui est au-dessus, voilà, celle qu'il porte. Le sculpteur porte la chaire, c'est pas une chaire, c'est un tabernacle, hein. Le tabernacle qui a réalisé, lui il a fait ça, enfin, il a fait son portrait, c'est un autoportrait, mais au-dessus il l'a fait aussi, il porte son propre travail. Le voilà d'ailleurs le travail en question, hein. C'est une sorte de tabernacle, hein. C'est à Nuremberg, hein. Voilà, et donc lui s'est figuré là. Hein ? Oui, je repose ma question. Est-ce que vous n'allez pas vous tirer comme ça de la question, hein ? Bien senti qu'il y avait une espèce d'éluder la question, mais non. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la question de la signature de l'œuvre au Moyen-Âge ?
Elle n'est pas en toutes lettres.
Pardon ?
Elle n'est jamais en toutes lettres.
Voilà, rarement. Hein ? Alors, on l'a vu quand même avec Fouquet, par exemple, à l'instant. Hein ? Oui. Mais c'est vrai que c'est très rare. Hein ? C'est très, très rare. Et pourquoi, finalement, les peintres ne signent pas, ou signent d'une manière un peu timide, ou signent d'autant plus timidement qu'ils se font apparaître eux-mêmes, leurs portraits, sans mettre qui ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu Memling, il y a de grandes chances que ce soit Memling, mais on n'est pas sûr non plus. Donc vous voyez, c'est un peu... Pourquoi est-ce que le peintre, aujourd'hui, ou au XIXe siècle, c'est, on fait une œuvre, on la signe, quoi. Puis c'est clair, c'est réglé, on n'en parle plus. Bon, pourquoi est-ce que la Renaissance... ou au Moyen-Âge, il n'y a pas la même idée. C'est vrai, mais justement, en atelier, on peut tranquillement mettre la signature, puis il n'y a pas de problème.
Il est plus...
Ah, ils sont plusieurs, oui, mais les collaborateurs s'effacent derrière la figure du maître.
Hein. Il fait plus partie des artisans.
Oui, ça c'est juste. Pardon ? Alors... C'est un peu les deux choses que vous dites se recoupent. C'est-à-dire que vous disiez un peintre fait partie des artisans, et vous disiez c'est condamné par l'Église. C'est pas mal, ces deux idées. Si on les croise, peut-être ça peut donner quoi ?
rester modeste.
Voilà, c'est quelque part cette idée-là. C'est-à-dire que finalement, l'artiste ne peut pas être un créateur. Qu'est-ce qui est créateur ? Ben, c'est Dieu. Si l'artiste veut être créateur, c'est le bazar, si j'ose dire. Hein. Il n'en est pas du tout question. Donc l'artiste, c'est un artisan, c'est pas un artiste, c'est pas un créateur. Alors il n'a pas signé, c'est quand même pas un démiurge, l'artiste. Hein. L'idée, finalement, de faire de l'artiste quelqu'un qui crée, c'est-à-dire qui refait le monde, quelqu'un qui met en cause le monde, qui le voit d'une certaine manière, qui impose d'une autre vision du monde, ça, c'est quand même quelque chose de sacrément bouleversant, si vous voulez. Alors, si on donne ce statut-là à artiste, ça ne va pas aller, quoi. Sauf que petit à petit, les artistes ont conquis ça. Au Moyen-Âge, en effet, hein, un artiste, c'est un artisan. On ne va pas faire signer un artisan. Quand vous avez votre plombier qui vient chez vous, vous n'avez pas à lui demander de mettre sa signature. Ben, c'est pareil pour un peintre. Quand vous demandez, encore qu'il y en a qui le font, mais bon, quand vous demandez à un peintre de faire un tableau, c'est pareil, vous n'avez pas à lui demander de mettre sa signature, franchement. Alors, petit à petit, ils mettent un peu le pied dans la porte en mettant leur visage, en suggérant leur présence. Fouquet va jusqu'à mettre son nom, voilà. Mais sur le cadre, un peu à la marge. Hein. Après tout, un artiste n'a pas à être un démiurge, il n'a pas à inventer le monde, hein. il y a le reprendre. Hein. Il y a donc une discrétion des artistes, mais qui, vous le voyez, est un peu contrebalancée. Dürer. Hein. Ça, fastoche, a des Albrecht Dürer. Donc, autoportrait d'Albrecht Dürer. Qu'est-ce que vous auriez à dire, là ? Pardon ? Un peu quoi ? Christ. Absolument. Ça, c'est un tableau qui est très, très curieux, parce que c'est quelque part un tableau qui représente le Christ. Il se trouve que dans la peinture médiévale, j'aurais dû vous en amener un exemple, mais bon. Dans la peinture médiévale au 15e, quand on représente le Christ, c'est généralement comme ça. C'est-à-dire très frontal, de manière, comment dire, très docte. Hein. Voilà, exactement, bénissant. Hein. Alors généralement, le geste du bénissement, ça se dit, du Christ, est plus radical. Hein. C'est vraiment comme ça. Je ne suis pas le Christ, mais voilà, il bénit, quoi. Hein. Bon. Alors là, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus... Bon, il est en train de se lisser la fourrure dans son col, n'est-ce pas ? Mais il y a une dimension christique, là. Donc ça recoupe exactement ce qu'on disait. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, l'artiste se met dans le statut de créateur. Il va créer. C'est-à-dire qu'il était un artisan, on ne voulait absolument pas lui reconnaître un rôle d'inventeur, de créateur, il n'y a que Dieu pour ça. Et bien petit à petit, l'artiste va essayer d'aller plus loin. D'ailleurs, ce tableau, est-ce que vous voyez de quelle date il est ? Vous voyez peut-être
autour
pas.
Autour de 1500.
Oui, il est daté de 1500 pile. Hein.
Ah bon ?
Oui, 1500. C'est vraiment trop beau pour être vrai, quoi. Hein. C'est en 1500, au moment de son anniversaire, sans doute d'ailleurs, que Dürer fait ce tableau qui, quelque part, hein, entre guillemets, le représente en Christ. Alors, c'est pas le Christ, hein, c'est bien un autoportrait, mais il y a quand même une dimension christique dans ce tableau absolument étonnant. Quoi. Là, tout le monde connaît, c'est Leonardo da Vinci. Hein. Et alors, dans ce portrait, dans cet autoportrait de Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ?
Il est déjà âgé.
Il est âgé, absolument. Qu'est-ce qui montre notamment qu'il est âgé, notre cher Léonard ?
La barbe,
la barbe, voilà. Et alors, qu'est-ce qui sourdit de ça, hein ? Qu'est-ce qui sort d'un portrait comme celui-là ?
Sagesse.
Sagesse, oui, hein. Quoi d'autre encore ? Un savoir, connaissance.
Il a un regard.
Un regard qui porte loin, n'est-ce pas ? Qui voit l'avenir, le présent, le futur, le passé, tout. Donc on avait une sagesse, et si on monte d'un cran vers quelque chose de plus allégorique, peut-être, on pourrait y voir quoi ? Un côté Dieu le Père, oui, oui, oui. Et si on passe du religieux au profane ?
Un philosophe.
Un philosophe. Quelque part, c'est un philosophe. Un philosophe comme qui, comme quoi ?
Grec.
Quelque part, c'est un philosophe grec. Hein. On est là devant quelques Socrates. Hein. Pensez à la tête de Socrate avant qu'il boive la ciguë, n'est-ce pas ? Hein. Eh bien, on est là devant quelque chose qui est un mélange entre Dieu le Père et Socrate. Décidément, vous voyez que l'artiste, on vient de voir Dürer le faire, pourquoi pas Léonard, hein, l'artiste, soudain, n'est-ce pas, se donne un niveau qu'il n'avait pas forcément avant, d'artisan, il devient un créateur. Hein. Ça, c'est une conquête, pourrait-on dire, hein, de la Renaissance. Pour moi, quelque chose qui s'est tranquillement établi entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. On a quand même quelques signatures au Moyen-Âge. Hein. Pas forcément sur des autoportraits, d'ailleurs. Hein. Vous connaissez tous le tympan de la cathédrale d'Autun. Vous savez que le tympan de la cathédrale d'Autun, qui date du XIIe siècle, la première moitié du XIIe siècle, est signé de Gisle Bertus. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même des artistes qui signent. Hein. Mais c'est rare, c'est discret. Voilà. Alors que, petit à petit, le statut de l'artiste passe vraiment de l'artisan au démiurge. Et ça, Raphaël. Hein. Absolument, c'est un autoportrait de Raphaël. Alors qu'est-ce que vous diriez de cet autoportrait-là ? Par rapport à Dürer et à Léonard. Beaucoup. Beaucoup de douceur.
Oui, mais il est jeune.
Il est jeune. Oui, mais Dürer était jeune. Donc qu'est-ce que vous diriez là ? Pardon ? Une sorte de modestie d'innocence, absolument. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une sorte de mouvement de balancier entre les artistes qui vraiment vont maintenant travailler dans une dimension de recréation du monde. Avec Léonard, c'est quand même une évidence. Hein. Lui qui invente des machines, qui fait un peu des calculs, enfin, bref. Donc l'artiste devient un second dieu. Et puis des artistes qui ont une attitude, alors là, cultivée, certes, hein, subtile, c'est le cas de Raphaël, hein, mais qui en même temps est dans une espèce de enfin, qui sont sur le monde, qui sont les pieds sur terre, hein, qui ne sont pas, comme Léonard, la tête dans les étoiles. Hein. Finalement, quelqu'un comme Raphaël, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui, on va dans un tableau tel que celui-ci, a une espèce de modestie qui est pas du tout celle un peu hors contrôle, hein, hors radar de Vinci, mais qui est beaucoup plus, j'irais, terrestre. Hein. Quid ? Un enfant ? Autoportrait, hein. Une femme. Alors, par parenthèse, je vous montre peu de femmes au cours de ces séances, non pas parce que je suis habité d'une misogynie, mais tout simplement parce que le troisième atelier est autour des femmes peintres. Et j'espère que les messieurs que je vois ici seront tous là. Hein. Faites pas le coup de pas être là, hein, parce que alors, ça ne va pas. Hein. Et puisqu'on a un atelier spécialement sur les femmes peintres, sujet peu abordé, j'ai décidé, là, dans ces séances, on a vu des portraits de femmes, hein, mais par contre, de ne pas vous montrer d'œuvres faites par des femmes, hein, pour cette raison-là. Mais n'ayez crainte, des portraits, des autoportraits de femmes, on en verra. Je ferme le banc. Alors ça, c'est donc un monsieur, jeune, certes.
Très jeune.
Très jeune, oui. Oui, la main est bien grosse, c'est quoi cette histoire ?
Oui, mais parce que c'est... Il a utilisé un miroir courbe.
Voilà. C'est-à-dire que là, ce peintre, jeune, s'est représenté via un miroir comme celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est le miroir bombé, là. C'est la même chose ici. Hein. En fait, vous savez quel est ce peintre ?
Non.
C'est Parmesan. Parmigiano.
Parmesan.
Parmesan jeune.
Je connaissais pas.
Voilà. Et Parmesan n'est pas que le fromage, que vous savez, hein, gourmands, ou les gourmands ici. Voilà, Parmesan. Hein. voilà, je crois qu'il va y avoir des nouilles ce soir. eh bien, voilà, donc Parmesan. Et en fait, on connaît bien ce tableau parce que j'allais dire un critique d'art, enfin un écrivain sur la peinture du XVIe siècle a parlé de ce tableau et a dit comment il l'avait fait. En fait, Parmesan, un jour, qui regardait une boule de verre, a remarqué comment son image était complètement déformée. Il a trouvé ça vraiment intéressant et il a donc décidé de se portraiturer comme ça, avec cette déformation, et ça a donné le portrait que vous voyez là. Donc vous voyez donc cette manière qu'a la Renaissance de se faufiler dans toutes les inventions. On voit une bizarrerie, on voit comment l'optique... et là, convoqué en quelque sorte, eh ben, on s'engouffre dans la brèche et on se fait son portrait de cette manière.
Oula!
Oula!
C'est C'est la chapelle Sixtine.
C'est le Vatican, c'est la chapelle Sixtine. C'est un détail de quoi, la chapelle Sixtine ? Pardon ?
De la création.
Alors, pas le plafond, enfin, la création n'est pas très loin, si j'ose dire, mais...
C'est le jugement dernier.
C'est le jugement dernier. Hein. C'est un détail du jugement dernier qui représente quoi ?
Ceux qui sont
pardon.
Et les damnés d'un côté.
Les damnés.
Non, c'est pas un damné.
Si, celui-là.
Sont des damnés.
Celui qui pend, c'est un damné.
Ça, c'est un damné, ça. Hein. Plus la tête qu'il fait, c'est un damné. Hein. Eh bien, ça n'est pas un damné.
C'est une tunique.
C'est même l'inverse. Voilà. C'est l'impôt d'un personnage. C'est un personnage. Voilà. Vous avez la représentation de Saint-Barthélemy. C'est que Saint-Barthélemy a été supplicié, on l'a écorché. C'est-à-dire qu'on a fait des trucs, on a enlevé la peau comme on le fait un lapin, si vous voulez. Eh bien, Saint-Barthélemy, il est en train de tenir sa peau. D'accord ? Pas terrible, hein ? Bon. Alors, pourquoi je vous passe ça dans une séance consacrée aux autoportraits ? J'ai de l'esprit tordu, d'accord, mais quand même. Pardon ? Ben non, le peintre, c'est qui ?
C'est Michel-Ange.
C'est Michel-Ange. Donc, en bas. Donc là, on aurait Michel-Ange. Ça.
Ce petit coin.
Le petit coin, discrètement, un peu comme notre Memling tout à l'heure, Michel-Ange. Ça, ce serait une possibilité, hein ? Eh ben non.
C'est l'écorché ?
Non, c'est le...
Eh ben voilà. Michel-Ange. Vous l'avez là.
Oui, mais dans un miroir déformant.
C'est Michel-Ange vu... Enfin, c'est la peau de Michel-Ange déformée, parce que quand on vous dépasse quelqu'un, évidemment, c'est un peu déformé. Alors, là, c'est pareil. Hein. On a très vraisemblablement ici un autoportrait de Michel-Ange qui se donne ce visage pathétique et déformé d'un Saint-Barthélemy en peau, quoi. Dépouillé. Je ne sais pas comment dire, dépouillé. Enfin, c'est, en fait, c'est la peau du Saint-Barthélemy. Enfin, bref. Et voilà. Alors... Là aussi, la critique discute, c'est comme, pour comme Botticelli tout à l'heure, c'est comme Memling, il y a des exégètes hein, de ces questions-là, mais c'est plus que vraisemblable, en tout cas, c'est bien dans l'esprit. C'est-à-dire que, vous voyez, Michel-Ange, il ne donne pas forcément le rôle de Dieu le Père, quoi, hein, encore qu'on a vu Dürer le faire. Mais en se donnant là l'image humble d'une peau, il peut à la fois apparaître sur le jugement dernier, hein, ce qui est quand même pas la meilleure, la moins mauvaise place, dans la chapelle Sixtine, mais enfin de manière humble, comme la peau d'un saint, quoi. Ce qui est évidemment plus convenable. Hein. Voilà. Et là, haha, c'est qui ça ?
C'est Titien.
C'est Titien, Vecellio, Titien. Alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cet autoportrait de Titien ?
Content de lui.
Content de lui ? Effectivement. Il peut être content de lui. Et pourquoi est-ce qu'il peut être content de lui, Titien ?
Il a vécu très longtemps avec tous les magnifiques.
Ben voilà. Hein ?
Le peintre
plus grand de son époque. Ben oui, et il était grand pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est le peintre
plus grand ?
C'est vrai. Et puis il y a peut-être d'autres raisons aussi.
Il était bon.
Oui, c'est un bon peintre. Mais qu'est-ce qui fait qu'un peintre est bon peintre ? Très reconnu. Hein. C'est un peintre vraiment installé. Hein. À Venise, au XVIe siècle, Titien est un des peintres... quand vous êtes, ce que vous êtes tous, des aristocrates vénitiens au XVIe siècle, vous avez des Titiens, ou alors on va-t-on, vous comprenez ? Donc Titien, c'est quelqu'un qui est reconnu, donc c'est quelqu'un qui apparaît comme tel dans ce tableau, n'est-ce pas, hein ? Vous avez un peintre installé. On n'a pas notre petit Raphaël de tout à l'heure, hein, ni notre Christ durerien. Hein. Trois âges de la vie en haut. Jeunesse, maturité, vieillesse, ok.
Trois animaux.
Le lion, c'est quoi ? La force, la puissance, hein, qui correspond à la maturité, ok. Alors, le loup, il est là. Le chien, c'est quoi ?
La fidélité.
Pardon ? Fidélité, mais pas que. Rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, dans les portraits d'enfants avec les chiens. Le dressage, l'éducation, l'apprentissage, c'est ça, chien. C'est la fidélité, effectivement. Mais c'est également le devenir. Quoi. Un chien, c'est quelqu'un qui s'améliore, quelqu'un. C'est un animal qui s'améliore. Hein, voilà. Donc c'est l'apprentissage, c'est l'éducation, le chien. Ça correspond bien à la jeunesse. Hein. Et le loup. Ah ben le loup quelque part c'est un animal sage, sociable, hein. Il y a une dimension de... Enfin le loup n'est pas un vague grognon, hein. C'est un animal intelligent, doué de... Il y a une sociabilité des loups, vous le savez, hein. C'est pas n'importe quel animal. Hein. Il y a aussi une prudence. Le loup est aussi le symbole de la prudence. Avec les hommes il a tellement à faire pour dire qu'on comprend que ce soit le symbole de la prudence. Donc le loup c'est aussi ça, hein. C'est finalement la représentation de ça, une sorte de super maturité. Hein. Alors, on aurait là, au centre, l'autoportrait d'un peintre. Alors là, c'est pareil, tout le monde n'est pas d'accord, mais ce serait qui ? Ah, je sens comme un blanc. On est au Moyen-Âge et à la Renaissance, là. Langochat ? Langochat.
Non.
Titien à nouveau.
Lui aussi,
encore. Et ça. Tiens, ça a été fait où, à votre avis ? Vous faites penser à quoi ? Ouais, la fraise fait penser à quoi ? Henri IV ?
Non.
Ouais. Allemand ? Hollandais ? Espagne ? Rien de tout cela.
Anglais !
C'est anglais. Pensez à Henri VIII. Henri VIII a une autre trogne que celui-ci, on est d'accord, mais... Ça, en fait, c'est une petite œuvre... d'un artiste qui s'appelle Hilliard, qui a fait beaucoup de petits portraits, un peu pour la raison qu'on disait tout à l'heure, hein, pour les envoyer, etc., des miniatures. Hilliard, c'est un peu, en Angleterre, le début de la miniature, des petits portraits de petites dimensions. On fait volontiers faire le portrait de sa belle-mère, sa sœur, etc., sa belle-fille, enfin bref. Et voilà, donc Hilliard, ça c'est un autoportrait, mais il a fait beaucoup de portraits de ce genre. Mais... Allons maintenant, car nous ne sommes pas sortis de nos peines, vers les 17 et 18e siècles, et voyons un peu ce que ces périodes nous réservent.
Caravage.
Ok. Alors, quid ? Quid, quid, quid ?
David et Holoferne.
David et Holoferne.
Il a mort de Jean-Baptiste.
Goliath, hein. Ce serait Judith et Holoferne, c'est David et Goliath, effectivement. La tête de Goliath. Alors, quid ? Je vous rappelle que c'était une séance sur l'autoportrait. Voilà. C'est-à-dire que, a priori, le Caravage s'est peint là. Il s'est peint tout comme Michel-Ange faisait tout à l'heure pour la dépouille de Saint-Barthélemy. Là, Caravage se peint dans la tête du Goliath. Alors c'est pareil, hein, c'est discuté, bon, parce que c'est toujours compliqué. Évidemment, les peintres ont mis ces petites choses-là, mais sans l'indiquer expressément, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ça reste des hypothèses qui sont parfois discutées, mais c'est très vraisemblable. Alors, c'est qui ça ?
Peut-être Rubens.
C'est très rubénien, mais c'est pas Rubens.
Alors Jordaens.
Jordaens. Jordaens, un des élèves de Rubens, effectivement. Alors ça présente quoi, ça ? Oui, plus largement. Parce que je sais pas, voilà, c'est un tableau de famille, hein. C'est une réunion familiale, il y a papa, maman, les enfants, les petits-enfants, la grand-tante, enfin il y a tout le monde, quoi. C'est une photo de famille, comme on fait tous, voilà. Et le peintre, il est où là-dedans ?
À gauche.
À gauche, effectivement, hein. C'est le premier à gauche. C'est un tableau fait par Jordaens très tôt, hein. C'est un artiste qui a beaucoup produit et très très tôt. Hein. Voilà. Donc effectivement, c'est une sorte de réunion familiale, un peu allégorisée. Vous voyez qu'il y a même des poutres dans le ciel. Hein. Ce que l'on voit rarement dans les réunions familiales. Enfin, dans les nôtres, en tout cas, c'est pas fréquent. Hein. Peut-être dans les vôtres. En tout cas, voilà. Donc c'est une réunion familiale, un peu allégorisée, assez enjouée, n'est-ce pas, hein, de Jacob Jordaens. Qui ça ? Pas Hals. Non, c'est vrai que ça fait penser à Hals, mais c'est pas lui. C'est un Français. Et du 17e. Pardon ? Ah, c'est vrai que ça ressemble un peu à Philippe de Champagne, mais c'est pas lui. On est un peu avant. Je sens que l'aspiration fléchit. C'est Simon Vouet. Voilà, un autoportrait de Simon Vouet. Très beau d'ailleurs. Hein.
Ça, c'est un vrai autoportrait.
Voilà, vous commencez à avoir le réflexe, effectivement. Hein. C'est dans la boule que ça se passe. Mais vous avez déjà vu nos artistes jouer avec les boules, hein. Depuis Van Eyck et les époux Arnolfini, vous vous rappelez, hein, on a vu ça chez Parmesan, et ben voilà maintenant, une quoi ?
Vanité.
Une vanité, hein, dans laquelle l'artiste lui-même s'intègre, puisqu'il les visite là, hein, dans la boule déformante, qui le représente. Hein. Et alors pourquoi se représenter ainsi au milieu de cette vanité, dans la boule déformante ? Voilà, c'est l'éternelle idée, hein, qu'on a déjà vue dans le portrait de Bailly, vous vous rappelez l'autre jour, hein. C'est-à-dire le peintre s'intègre à la vanité. Finalement, tout est vain, y compris de peindre. C'est ça que ça veut dire. Hein. Très étonnant tableau de Peter Claes.
Un espagnol ?
Oui.
Ah oui.
Mais lequel ?
Ah oui, c'est...
Ouais, c'est lui. Non, mais je sens qu'elle a trouvé. Non. Mais c'est l'époque.
Il est de Séville.
Oui.
Mais je connais par cœur. C'est celui.
Enfin, je crois qu'il est né. Je sais. Il est né à Séville. Pardon. Il est né à Séville. Je sais plus s'il est né à Séville. Pardon. Ribera. Non, pas Ribera. Non, je ne sais pas s'il est né à Séville. On va voir, je ne me rappelle plus.
Il est né à Séville.
Enfin, il y en a à Séville. En tout cas, qu'est-ce que vous voyez ? Au-delà du fait que...
Il tient même une palette.
Oui, il tient une palette. Hein, vous le voyez là, le personnage. Hein. Il tient une palette. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle Saint-Luc. Tout à l'heure, il peignait la Vierge. Maintenant, quelque part, il change de rôle. Il est toujours peintre et il peint le Christ. Hein? C'est en effet un peintre qui se met à nouveau dans le rôle de Saint-Luc, peignant le Christ et non plus la Vierge. Et alors, ce peintre, dont on ne retient pas le nom, c'est... Voilà.
Fuente de Cantos, c'est à côté de Séville.
Là, voilà. Vous aviez raison. C'est lui que vous aviez en tête, je pense. Hop ! Ça n'est pas le portrait d'un fleuriste. C'est autre chose.
C'est un espagnol, une fois.
Que se passe-t-il ?
Il y a une allusion avec le tournesol. Oui, mais le tournesol, c'est un personnage de la mythologie, quelqu'un qui a été transformé en tournesol.
Alors, c'est vrai qu'il y a dans la mythologie un personnage, je crois que c'est Clytie d'ailleurs, qui a été transformé en tournesol. Mais là, ça ne fait pas allusion à ça. Mais c'est vrai, il y a dans la mythologie un personnage transformé en tournesol. Oui, mais alors, vous avez raison, ça fait penser au roi soleil, le tournesol, hein, il a le soleil, etc. Hein. La chose, c'est que c'est un tableau qui a été fait où ? Vous avez une idée de l'auteur et de l'endroit où ça a été fait ? Mais vous êtes sur la voie, hein. Et vous avez une idée, oui, non, de l'artiste?
Non.
Non. Anton van Dyck. Hein. Donc c'est un autoportrait d'Anton van Dyck avec un tournesol. Le tournesol est effectivement, vous l'avez dit, hein, une évocation du roi. Alors pas notre roi soleil à nous, mais le roi d'Angleterre. Parce que vous savez que van Dyck est né à Anvers, c'est un Belge, c'est un Flamand. Hein. Mais il a vécu la majeure partie de sa vie en Angleterre, notamment au service du roi et des grands aristocrates anglais. Et il se trouve qu'il a reçu du roi... ça devait être Jacques Ier ou Charles Ier, je ne sais jamais. Une décoration, d'ailleurs vous voyez qu'il montre la chaîne qu'il a reçue. Hein. Et en quelque sorte, pour remercier le roi, ou faire une allusion au roi, et pour ne pas représenter le roi, d'ailleurs est-ce qu'on présente le roi, enfin dans un tableau comme ça, il a présenté un soleil via le tournesol. Voilà. C'est une évocation du roi d'Angleterre. Ouh, comme vous dites. Ouais. Ben, je crois que l'artiste qui a fait ça, vous entendrez, il serait bien content de son coup. Parce que c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Vous avez tout de suite vu que c'était sombre, c'était étrange, bizarre.
C'est du silence.
Ouais, mais un silence un peu spectral. Non ? Oui, on a l'impression que l'enfer n'est pas trop loin. Alors, pour mettre un peu d'ambiance, vous avez vu qu'il y a une petite citation latine. Cette citation latine, en gros, dit « Si vous, à moins que ce que vous ayez à dire soit intéressant, taisez-vous. » Ça met tout de suite de l'ambiance. Voilà. Donc, ça n'est pas pour ça qu'il faut vous taire. Mais d'ailleurs, vous avez déjà dit, hein, en gros, on allait un artiste qui produit un autoportrait ténébreux, un peu mystérieux, un peu dérangeant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce n'est pas un artiste très connu, c'est un artiste très passionnant. De quelle nationalité, à votre avis ?
En tout cas, l'arrière, c'est
très beau. Très beau, très très beau. C'est un Italien qui s'appelle Salvatore Rosa, hein, un Napolitain. Hein. Voilà, donc tout ça est un peu chargé. Hein. Ah. Et Salvatore Rosa est un peintre qui s'est beaucoup spécialisé dans des vues bizarres, étranges. Il y a toujours, au mieux, il y a quelques soldats, des reîtres un peu bizarres, encuirassés de manière curieuse, près de gros rochers, dans des forêts sombres. Au pire, il y a des sabbats avec des sorcières qui partent sur leur balai, avec des squelettes au premier plan. Enfin, Salvatore Rosa, c'est quelque chose. Hein. Donc vous voyez, son autoportrait... Et vraiment, c'est vraiment ce que vous êtes. En le voyant, vous avez tout de suite la réaction. C'est pour ça que je crois qu'il a vraiment réussi son coup. Quoi. Son portrait est vraiment le reflet de ce qu'il fait. Quoi. Quelque chose de dérangeant, d'étrange, de pas vraiment très convivial. Hein, voilà. Hein. Visiblement, il est allé au bout de ce qu'il voulait faire. Là, vous ne trouverez pas le nom de l'artiste. C'est pas un artiste très connu. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. On a tout simplement... C'est un tableau intéressant, ce qui montre vraiment comment on fait un autoportrait. Et en faisant ça, ça donne une représentation assez marrante, quoi. Il est de dos, il y a à la fois son reflet et le visage qu'il est en train de peindre, quoi. Donc c'est une espèce de triple autoportrait, hein, dont un de dos. Comme ça, on a une idée de ce que c'est que le bonhomme de face, de dos. Il manque le profil, je trouve, mais à part ça, on a tout. Hein. Voilà. C'est un artiste pas très connu, autrichien, qui s'appelle Johannes Gump.
Poussin.
Poussin. Nicolas Poussin. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ?
Il présente en même temps ses œuvres,
ouais,
par derrière.
Absolument. Derrière, hein, il présente des œuvres de lui. Hein. Ouais. On sent vraiment que sa question, c'est la peinture. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs parmi ses œuvres ? Oui, on voit une sorte de déesse, là.
Couronnée.
Qui pourrait être quoi ? Une muse. Et la muse de quoi ? Eh ben voilà, vous avez compris, c'est la muse de la peinture. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs pour cette muse ? On voit la muse, là. Mais on voit autre chose. « Ensuite, au premier plan, au deuxième plan, au troisième, je ne dis pas, et dans le fond, je crains que non. Mais on voit autre chose.
Demain.
Hein, on voit deux mains comme ça, qui en serrent la muse à la peinture. Hein. Hein, vous voyez une main là, vous voyez même le pouce là, hein, et puis une autre là. Hein. Donc on sent que. Bon. Et tout ça est un fragment visible, parce que Poussin, qui pourtant est un homme ordonné, hein, a un peu accumulé les peintures dans son atelier. Hein. Il faudra un peu de ménage, visiblement. Et oui, c'est quoi ces bras qui viennent en serrer la peinture?
C'est le peintre qui
est ben, c'est quelque part lui, hein, lui qui est vraiment, il est peintre, oui, il adore la peinture, quoi, hein, voilà. Il y a aussi le fait, mais ça, on ne peut pas le deviner, que ce tableau a été fait pour un ami à lui, qui s'appelle Chanteloup, et qui en plus l'a beaucoup, l'a beaucoup acheté d'œuvres, etc. Hein. Poussin, au début de sa carrière, a été très redevable à Chanteloup de son amitié. Donc c'est aussi cette idée de l'amitié, si vous voulez. Hein. Le goût de la peinture, la fidélité à la peinture, l'amour de la peinture, l'amitié aussi, celle qui rassemble, qui embrasse, si vous voulez. C'est tout ça, là. Célèbre autoportrait du Louvre. Hein. Ça, fastoche. Bien. Là, c'est trop facile. Les Ménines de Velázquez. Ça marche.
Il a fait le portrait de la...
Voilà. Alors, Velázquez, il est là. Hein. Mais vous voyez effectivement que Velázquez a utilisé les stratagèmes que d'autres avaient utilisés avant lui, mais quelquefois pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on voit là ?
Un miroir.
Et qu'est-ce qu'il y a dans le miroir ? Ouais. Les parents, le roi et la reine. C'est-à-dire que là, vous avez dans le miroir, c'est-à-dire là où vous êtes. Hein. C'est vous le roi et la reine, en fait. Hein. Puisque ça reflète ce qui est là. Hein. Puis qu'est-ce qu'on voit d'autre ?
Un personnage qui s'en va.
Ouais. Ça, c'est un ministre, le premier ministre du roi. Hein.
Ça donne de la clarté.
C'est ça, ça donne de la clarté, une espèce de profondeur, puis aussi une espèce de jeu. Parce que là, on a le miroir de ce qu'il y a devant. Là, on a une porte qui s'ouvre sur ce qu'il y a derrière. On a là le peintre qui regarde par là, mais sa peinture est là, qui bouge au premier plan. Puis vous avez là des tableaux qui sont eux tout plats et qui... Bon, on a vraiment un tableau qui donne presque une sorte de mal de tête, hein, qui va et vient, jusqu'à la petite naine là au premier plan qui regarde vers vous. Enfin voilà, il y a comme ça une sorte d'aller et venu, quoi, qui est évidemment... une idée prodigieuse, hein, qui fait évidemment ce tableau de la réputation extrême qu'il a. Hein. C'est un tableau plein d'allées et venues comme ça, hein, et très très curieux, très très étrange, plein d'allées et venues. Hein, et où le peintre s'est effectivement représenté au travail. Vous connaissez tous. Hein. Voilà, encore un autoportrait d'un peintre, hein, il a sa palette, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe ?
La main sur le
tableau. Ouais. Oui. Oui, on dirait qu'il traverse le tableau. Il traverse le tableau, c'est un peu l'impression qu'on a, mais il traverse quoi aussi ? Un mur ou bien... Parce que c'est un mur un peu organisé, quand même. Une fenêtre, hein. C'est-à-dire qu'il est à la fenêtre, effectivement. Hein. Voilà. Et ça, pourquoi, à votre avis ? Oui, ça peut être ça. C'est peut-être un peu autre chose aussi. Parce que beaucoup de peintres ont fait ça, hein, notamment lui. Lui, c'est un spécialiste pour représenter des choses à la fenêtre. Pardon ? Non, vous ne voyez pas ?
Il y a dedans et dehors.
Oui. On voit son petit appartement derrière, si j'ose dire. Vous savez, c'est l'idée dont on a déjà parlé à ce micro, mais dans d'autres ateliers, qui est celle de la révélation. Vous vous rappelez, une fois, on avait parlé des rideaux dans la peinture. Vous vous rappelez de ça, hein ? Souvent, les rideaux sont tièves parce qu'ils révèlent. La fenêtre joue un peu la même chose. Hein ? En apparaissant à la fenêtre, on révèle. C'est une apparition, si vous voulez. Quand on voit rien de soleil, qu'il n'y a rien, ben, il n'y a rien. Quand quelqu'un vient, cette chose apparaît, n'est-ce pas ? Hein ? Donc, c'est l'idée de la peinture, si vous voulez, qui peut révéler des choses. Mettre une fenêtre, ce n'est pas simplement pour faire joli, parce que ça fait un deuxième cadre. Il y a ça. Hein. Mais il y a également l'idée que ça vient révéler quelque chose. La peinture, elle dit des choses, elle les révèle, elle les montre. Le peintre s'appelle Gérard Guérit Doux. C'est qui, ça ? Rembrandt. Hein. C'est le fameux autoportrait de la Frick Collection. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait de Rembrandt ?
C'est jeune homme, enfin, c'est un portrait, sans s'arranger, hein, c'était pas du rêve.
Oui, ça, effectivement, là, il s'arrange pas, voilà. Est-ce qu'il s'arrange pas, d'ailleurs ?
Il se costume.
Oui, dans, ben, voilà. Dans la richesse,
oui, alors, effectivement, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un contraste entre un visage, bon, qui n'a pas non plus la juvénilité du Rurienne, hein, et par contre des atours qui sont, alors là, extraordinairement voilà, riches pour... il ne déguise pas son visage, mais il déguise son corps, quoi. C'est-à-dire qu'on a une sorte de contraste entre un visage effectivement assez réaliste, vous avez raison, et des vêtements qui sont ceux de quelques aristocrates, n'est-ce pas, richissimes, hein. Donc il y a effectivement cette espèce de, d'équilibre un peu instable, un peu étrange. Et là, c'est encore lui. Quelle est la différence ? Plus simple, qu'est-ce qu'il fait ?
Il mendie.
On voit quelqu'un là.
Et puis, non, mais il est en train de peindre, il y a la baguette.
Il est en train de peindre. Ça, c'est la canne du peintre.
Il peint quelqu'un.
Ça ne vous rappelle rien. Alors, peut-être tout à l'heure, mais il y a quelques ateliers, on a parlé de ça. Ça ne vous rappelle rien. Mais tout le monde n'était peut-être pas à l'atelier où on a déjà parlé de ça. Je ris sadiquement comme le personnage dans la peinture, parce qu'il rit là. En fait, il rigole. Il se fend la poire. Et pourquoi ? Non, celui du fond ne rigole pas. Non. D'ailleurs, c'est pas un, c'est une. Pardon ? Non. À vrai dire. Le tableau que vous avez là reprend une vieille légende qui concerne la peinture, dont on avait parlé il y a quelques années, je ne sais plus dans quel atelier. Je vous la raconte ?
Oui.
Dans l'Antiquité, il y a un peintre qui est un peintre... Pardon ? Alors, ce n'est pas Appel, c'est Zeuxis. Hein ? Vous savez qu'il y a plusieurs peintres, j'allais dire, qui sont des icônes de l'histoire de la peinture occidentale. Il y a Appel et il y a Zeuxis. Zeuxis est un peintre qui a dû exister, mais qui, en plus, a été grossi par toute une légende. Vous savez, Zeuxis, c'est celui qui, un jour, je le dis pour ceux qui n'étaient pas à l'autre atelier, Zeuxis était vraiment considéré comme le peintre, le meilleur. Et un jour, il fait un tableau qui représente des grappes de raisin. Et c'est tellement bien fait que les oiseaux viennent pour picorer ces grappes de raisin. Et puis, ils voient que c'est pas vrai. Bon. Alors, tout le monde est admiratif parce que vraiment, arriver à faire croire des oiseaux que des grappes de raisin fausses sont des vrais, faut vraiment être un sacré peintre. Hein. Tout le monde dit vraiment que Zeuxis, c'est le peintre le plus extraordinaire. Bref, il est consacré le grand peintre. Et puis, dans la nuit, un de ses élèves vient subrepticement et peint sur le tableau de son maître, sur les grappes de raisin, une fausse draperie. Et le lendemain matin, Zeuxis rentre dans l'atelier, voit son tableau couvert d'une draperie et dit à ses élèves « Enlevez-moi la draperie qui est là. » Parce qu'il pense que quelqu'un a mis ça pour protéger son chef-d'œuvre. Et puis en arrivant près du tableau, il voit que zut, c'est pas une vraie draperie, c'est une fausse. Et là, alors il demande, n'est-ce pas, « Mais qu'est-ce qui a fait ça ?» Et l'élève qui l'a fait un peu peureux, peut-être, d'ailleurs, dit bah, « C'est moi. » Et là, Zeuxis va dire à son élève, « Écoute, c'est toi le meilleur peintre, parce que moi, j'ai réussi à berner les oiseaux, mais toi, tu m'as berné moi. » C'est-à-dire celui qui a... Donc, c'est une très belle légende, n'est-ce pas, qui montre... toute l'idée, c'est une légende qui est d'abord très charmante, très utile, très intéressante, mais qui montre aussi ce que c'est que la peinture. La peinture, c'est une illusion. Donc, c'est très, très intéressant, parce que c'est une légende qui dit ça. Mais il y a une autre légende concernant Zeuxis, qui est la suivante. C'est à la fin de sa vie. Enfin, Zeuxis ne savait pas que c'était à la fin de sa vie, mais ça va l'être. Une dame âgée, mais surtout très, très, très laide, demande à Zeuxis de la peindre. Hein, et puis lui dit, écoutez, vous me refaites le nez un peu comme ci, les yeux un peu comme ça, et puis peut-être que... Enfin bref. Et il a trouvé ça tellement rigolo, n'est-ce pas, qu'en faisant le portrait, il n'arrêtait pas de rigoler parce qu'il fallait qu'il fasse mieux que ce qu'il avait sous les yeux. Hein. Alors vous voyez la docte Mégère qui est là, hein, et lui qui se marre derrière sa toile parce que vraiment c'est quand même difficile de faire quelque chose. Et il a tellement rigolé qu'il en est mort. Hein. Une sorte d'apoplexie, si vous voulez. Alors c'est une légende, hein, mais voilà. Donc là, Rembrandt se représente en Zeuxis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il prend la place de ce peintre mythique. Hein. Intéressant quand même. Paf, voilà. Et ça, ça vous rappelle personne, ça? Pardon? Ça vous rappelle personne? Ne regardez pas ce qu'il y a. Trop tard. Ça vous rappelle personne? C'est qui? On vient de le voir. Eh ben, c'est Rembrandt. C'est Rembrandt. C'est un autoportrait de Rembrandt. Hein? Si vous regardez en bas à droite, à gauche. Ah, dans le fond, il ne voit pas. Mais au premier plan, il voit.
Non,
on ne voit
pas.
Oh, si.
Non,
c'est pas. Oui, c'est Courbet. Vous avez là une peinture de Courbet d'après un autoportrait de Rembrandt. Vous savez, c'est le coup de la vache qui rit. C'est la peinture dans la peinture qui est dans la peinture dans la peinture. Hein, c'est comme là. C'est-à-dire que vous avez là un portrait fait par Courbet d'après un autoportrait de Rembrandt. Vous avez noté que Courbet s'intéressait beaucoup aux autoportraits, et Rembrandt aussi. Donc on a deux autoportraitistes qui se regardent quelque part. Hein. Sauf qu'on pense maintenant que l'autoportrait d'après lequel Courbet a fait ce portrait, vous me suivez, n'est pas un autoportrait de Rembrandt. Voilà. Parce qu'il y a des tas d'émules de Rembrandt qui ont fait des portraits de Rembrandt à la manière de Rembrandt et qui ne sont pas des vrais autoportraits de Rembrandt. Vous me suivez ? Voilà. Alors, pour ne pas avoir trop vite mal au cœur, on va vite passer au suivant. Par parenthèse, je vois qu'il est déjà l'heure. C'est fou, parce qu'on discute, et puis ça passe très vite. Hein, vous rendez compte ? Ce que je vous propose, c'est qu'on termine quand même les 17-18e siècles. Je ne crois pas qu'on en ait pour trop longtemps. On laissera le 19e, qui est plus court, de toute façon, pour la fois prochaine. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'on cause tellement. Enfin, bon, c'est fait pour. Hein. Et ça ? Encore une scène familiale. Bon. Mais là, il y a peut-être un petit bémol. C'est quoi ? Alors, le peintre, il est à gauche, effectivement. Il est là. Il regarde la famille. C'est un portrait réaliste de la famille ? Moyen. C'est ce que je dirais aussi. C'est-à-dire qu'à la fois... Les portraits sont des portraits assez réalistes, mais la scène, elle, c'est un peu comme Jordaens tout à l'heure. Rappelez-vous, il y avait un côté réaliste, mais il y avait des petits poutons dans le ciel, etc. Là, c'est un peu pareil. Il va donner aux membres de sa famille, il va leur faire jouer un rôle. Est-ce que vous savez quelle est la scène qui est jouée là ? Regardez au centre. Vous avez un couple. Elle fait quoi, la dame ? Elle se touche l'oreille, mais elle fait plus que se toucher l'oreille. Oui, la boucle d'oreille. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa boucle d'oreille ? Elle l'enlève. Ça vous dit rien ?
Se dispute.
Non.
Non, elle se dépouille de ses atours, en fait, de ses joyaux.
C'est ça, en quelque sorte. En fait, ce qui est représenté là, c'est le festin d'Antoine et Cléopâtre. Antoine vient voir Cléopâtre. Cléopâtre qui est quand même dans une posture compliquée. Hein, là devant elle, un général romain qui est en train de conquérir l'ensemble de l'Est du bassin méditerranéen. Bon, alors faut un peu l'épater. Quoi, hein. Alors Cléopâtre, pour épater Antoine, elle va dire tellement l'épater que bientôt, enfin bref, pour épater Antoine, elle va enlever une de ses boucles d'oreilles qui est faite dans une perle double. C'est-à-dire les perles qui sont... rarissime. Hein. Ça vaut horriblement cher. Et non seulement elle en a une à une oreille, mais elle en a deux. C'est-à-dire qu'elle a deux perles doubles. Rien que sur elle, Cléopâtre vaut une fortune. Elle va prendre une boucle d'oreille et la plonger dans un vase de vinaigre. Il était dit, mesdames, vous essayez ça, je vais vous dire la semaine prochaine. Et messieurs aussi, parce que vous avez peut-être des boucles d'oreille avec une perle. Mais il est dit que quand on met une perle dans un verre de vinaigre, elle se dissout. C'est vrai, ça ? Bon. Vous n'avez pas essayé. Mais essayez, puis vous me direz. Mais des vraies perles, hein, pas des perles en plastique, attention. Et donc, voilà. Et donc, si vous voulez, c'était une manière pour Cléopâtre de montrer sa qualité, sa puissance. Voilà. Évidemment, Marc-Antoine, il a été sacrément impressionné. Donc, vous voyez que là, le peintre allégorie ce portrait familial dans lequel il se trouve pour en faire une scène d'histoire, la grande histoire, la rencontre d'Antoine et Cléopâtre.
Et les personnages, c'est sa propre famille qui l'a peint.
C'est ça, c'est ça. Lui et sa famille, absolument. Et là...
C'est encore un peintre.
Toujours un peintre.
Ah oui, une palette.
Une idée du peintre.
Quelque chose qui est devant lui.
Et bon, on n'est pas obligé de trouver le nom du peintre, même s'il est quand même très important, mais est-ce que cet autoportrait, qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il évoque ? Qu'est-ce qui surgit de cette œuvre ? Oui, voilà, hein, il est bien installé. Regardez, il est là dans un beau déshabillé, n'est-ce pas ? Ça coûte cher, ces petites robes de chambre-là. Hein. C'est pas des oripeaux. Hein. Il est au milieu de bustes, de sculptures. Il y a derrière les tableaux qu'il réalise. Il y a de magnifiques draperies. On sent bien que c'est pas un peintre ouillou, c'est pas un rapin dans une chambre de bonne. Hein. On est là devant un peintre installé. Il y a de quoi, d'ailleurs ? Ce peintre, c'est Nicolas Mignard, qui était peintre du roi. Hein. Vous avez là un des plus grands peintres de l'époque en France. Alors Nicolas Mignard, quand il se représente, il y a du décorum. Hein. Il faut bien montrer qui il est. Hein. Et là, un peintre qui s'appelle Jouvenet, que vous connaissez peut-être pas bien. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur cet autoportrait ? C'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un peintre avec qui montre son tableau. Hein. Il y a une sorte d'envol, de dynamique hein, dans cette œuvre-là. Hein. Une sorte de mouvement, en quelque sorte. Hein. Le peintre, c'est le peintre en activité, quoi. Hein.
Des portes.
Des portes. Pourquoi des portes se représentent comme ça ? Il est représenté en quoi, alors ?
En chasseur. Il a beaucoup peint les animaux.
Et voilà. Des portes est un spécialiste de la peinture animalière. Donc, il ne se représente pas avec des fleurs, pas non plus avec Antoine et Cléopâtre, mais avec des animaux. Parce que son truc, sa spécialité, c'est la peinture animalière. Il se représente avec des animaux. Pas mal, hein ? C'est un peintre dont on a déjà vu une œuvre, mais je vous redis son nom parce qu'il n'est pas très connu en France. C'est un peintre suisse qui s'appelle Lyotard. Superbe peintre, très peu connu en France. Pourtant, à côté, il a beaucoup vécu en France en plus. Lyotard, qui est un peintre du XVIIIe siècle, est un peintre qui a une caractéristique que l'on voit bien sur ce portrait-là.
Il prend des personnages déguisés, souvent.
Oui, alors là, oui, c'est vrai. Alors là, il ne s'est pas déguisé.
Ah bon ?
Non.
C'était son allure normale.
Oui. Et pour quelle raison ? Oui. C'est un habit quoi qu'il a là ? Il est habillé comment ?
Il est
un peu plus au sud.
Il est larvophile.
Un peu plus à gauche. Voilà. Il est habillé à la turque. Tout simplement parce qu'il a passé une partie de sa vie, quelques années, en Turquie. Et là, quand il est revenu. Vous savez que c'est la grande mode de la Turquie hein, au XVIIIe siècle, en Europe, notamment en France. L'autre jour, je vous ai montré même le portrait d'une des filles de Louis XV en turc, en turquesse, si j'ose dire, en turque, quoi, par Lyotard. Hein, vous vous rappelez de ça hein, elle était confortablement couchée sur son canapé. Vous vous rappelez de ça hein. Et bien évidemment, quand on vient de Turquie, qu'on a la chance d'avoir une belle barbe, etc., et puis tous les accoutrements qui vont avec, on se représente en turc. Quoi, hein. Ça marche très bien, ça. Hein. Les chinoiseries, les turqueries, ça marche très bien. Ah oui, absolument, oui. Ah, mais il n'y a pas que des turbans en Turquie. Hein. Il peut faire froid, vous savez, en Anatolie centrale. Hein. Oh, la Russie n'est pas loin. Tout est prêt. Une idée de l'auteur de ce portrait. Puis on s'arrêtera peut-être là, parce que j'ai peur quand même de vous faire un peu trop venir. Mais on verra la suite la fois prochaine, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce portrait-là? Il y a plusieurs choses à remarquer.
Il y a le chien.
Il y a le chien. Quoi d'autre?
La
palette. Quoi d'autre?
Il est lui-même en tableau.
Voilà. En fait, c'est pas un autoportrait, c'est le portrait d'un autoportrait. Parce qu'il ne se représente pas lui. Il représente la peinture qu'il représente. D'accord? Encore une de ses mises en abîme. Et qu'est-ce que vous en remarqueriez aussi là?
Rideau, chien.
Le rideau, chien. Il y a une... Il y a une chose que le peintre a voulu montrer.
Des livres.
Oui, alors effectivement, il y a des livres qui sont toute une série de ces références. Hein. On ne le voit pas là, mais il y a les noms des auteurs. Donc effectivement, il y a les références qui sont là. Mais il y a autre chose qui apparaît là. En tout cas, il l'a voulu mettre. Visiblement, il n'a pas réussi son coup.
Il y a le rideau.
Oui. Qui révèle lui aussi, oui. Il y a le bonnet, pardon.
On parle que le chien dans la composition porte comme le maître. Un vêtement croisé.
Alors, c'est assez ce que vous voulez dire, que ce qu'il a cherché, c'est à faire un parallèle entre lui et son chien. En fait, le chien a la même tête que le maître a la même tête que le chien. Pardon ? Voilà, c'est ça, oui. Hein ? Et donc, l'idée, c'est en fait de faire un parallèle entre lui et le chien. Il disait même qu'il voulait, parce que ce peintre qui est là, qui est un peintre anglais du 18e, ça vous dit rien? William Hogarth. Eh bien, Hogarth est quelqu'un qui n'était pas toujours très rigolo, on va dire. En tout cas, il avait son franc-parler, et il voulait que dans ce tableau, il ait l'air aussi à la fois rigolo, parce qu'Hogarth a fait des quantités de choses caricaturales, dans tout le Rex Progress, hein, le progrès de la race. Hein. Il a fait toute cette série-là. Il avait donc un côté très humoristique comme les Anglais, mais en même temps, hein, quand il avait une idée en tête, il n'en avait pas ailleurs. Hein. Donc il y a un côté comme ça, un peu mal aimable et rigolard en même temps, un peu comme son Carlin. Hein. Donc l'idée était de mettre en parallèle sa tête et celle de son chien. Voilà. Alors écoutez ce que je vous propose, parce que moi je n'ai pas vu l'heure passer.
Hein.
C'est plutôt bon signe, en tout cas moi, j'espère que vous non plus. Voilà, il est 7h moins... normalement on terminait... Il est 7h moins 20. Normalement on termine à 6h30, je ne rêve pas. Hein, voilà. Donc puisqu'on a dépassé l'heure, on va se garder au chaud les autres. On verra la prochaine fois en ouverture de la prochaine séance. Et donc à dans une seconde.